Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Alessandro De Vecchio, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Bienvenue Philippe Guibert, bienvenue Alexandre De Vecchio pour évoquer la loi immigration qui boite, la polémique Olivier Faure sur Israël et l'insécurité en France. On commence d'ailleurs avec cela, avec ce sujet, la France a peur. En fait, la France a-t-elle vraiment peur? C'est la question qu'on pose ce soir. Le ministère de l'Intérieur vient de publier une étude particulièrement alarmante sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité en France. Les détails avec Adrien Spiteri et Clotilde Payet.
C'est l'un des chiffres les plus marquants de ce rapport sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité en France. Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. En cause, les craintes d'être harcelées ou agressées sexuellement par exemple. Certaines ont même décidé de se munir d'objets de défense en cas d'agression.
Dans mon sac, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une bombe lacrymogène. Je me suis dit peut-être que je ne pourrais pas m'en servir, j'en sais rien. Je ne sais pas comment les événements pourraient se passer, mais en tout cas, j'ai au moins ça qui me rassure un peu.
Pour d'autres, l'insécurité est une réalité déjà vécue.
J'ai subi un vol à l'arraché avec agression violente. On m'a projeté contre une clôture. On m'a tiré le manteau pendant une trentaine de mètres. J'ai fini à l'hôpital avec le col du fémur brisé.
Autre enseignement de cette étude du ministère de l'Intérieur, 18% des Français déclarent se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village. Le chiffre monte à 25% pour les habitants de l'agglomération parisienne. Enfin, plus d'un Français sur deux, 56% au total, sont globalement satisfaits de l'action nationale des forces de l'ordre.
Alexandre De Vecchio, est-ce une réalité avec une insécurité qui est grimpante un petit peu partout en France? Est-ce qu'on a le sentiment que aucun lieu véritablement n'est épargné? Est-ce qu'il y a une forme de psychose ou de paranoïa qui se sont installés?
Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il y a une insécurité réelle, je crois une agression toutes les 30 secondes en moyenne, donc il y a un ensauvagement global. Vous l'avez dit, ça touche plus seulement l'agglomération parisienne ou les banlieues dites sensibles, mais ça peut arriver partout, et c'est je crois aussi pour ça que le Crépol a été un événement à créer le débat, parce que c'était dans une petite ville où on ne s'attendait pas à ça. Donc non, c'est un problème systémique. La peur, il y a différentes manières de réagir à la peur. C'est normal que les Français aient peur individuellement. Maintenant, je pense que collectivement, il ne faut pas avoir peur. Et justement, il faut dénoncer cette insécurité. Il faut peut-être changer politiquement et renvoyer ceux qui ont échoué depuis des années sur ce sujet. Enfin, ce qui est intéressant aussi dans ce sondage, c'est qu'on voit que les Français ont confiance dans les forces de l'ordre. Donc, ça veut dire qu'ils identifient que le problème ne vient pas de la police, mais en grande partie, sans doute, de la justice, de la réponse pénale et sans doute de la politique de l'immigration dont on reparlera. Il y a un lien entre cette immigration et l'insécurité, et entre le manque de maîtrise de nos frontières et cette insécurité-là. Voilà ce que les enseignements que je tirerais de ce sondage.
Par rapport à la police, on peut relativiser, parce qu'effectivement, il y a une confiance dans les forces de l'ordre, mais une confiance relative, car parfois, c'est vrai, Philippe Guibert, la justice ne suit pas la répression des policiers. Et c'est là que le bât blesse. Et c'est pour ça peut-être que cette peur s'est installée de manière prégnante et de manière systémique désormais. Ce qui n'était pas le cas il y a encore très peu de temps en France. Est-ce qu'on peut dire que la France est encore un pays où il fait bon vivre?
Oui, il y a pas mal d'endroits où il fait bon vivre. Toute la France n'a pas peur. Et surtout, toute la France n'a pas peur de la même façon. Alors c'est un fait qu'il y a des actes qu'on a hélas vécu comme un acte terroriste où un touriste se fait poignarder sur le pont Bir Hakeim en plein cœur de Paris et dans un de ses quartiers les plus touristiques. Donc il peut se passer des choses partout, mais tout le monde n'a pas peur de la même façon, et que les centres-villes sont encore, même si ça s'est dégradé, mais ils sont encore un peu protégés par rapport à d'autres quartiers plus périphériques. Donc tous les Français n'ont pas peur, et tous les Français n'ont pas peur de la même façon. Maintenant, on va regarder le verre à moitié plein. 18% de Français qui se sentent insécurité sur leur
dans
lieu
leur
de
quartier
vie.
Ou à la campagne, exactement. Donc ce ne
sur
sont pas
leur lieu
uniquement
de
les grandes
villes, là où ils résident.
Et 25% en région parisienne.
Absolument. Quand on y réfléchit, c'est considérable. C'est-à-dire un Français sur cinq ne se sent pas en sécurité là où il habite, là où il vit, là où il passe ses week-ends, là où il passe éventuellement, et même souvent, ses soirées. Et donc, c'est 20%, c'est énorme. Et ce pourcentage monte chez les femmes, comme on l'a vu. Ce qui est un grand classique. Enfin, moi, je suis les stades d'insécurité depuis une trentaine d'années. Et c'est un grand classique que les femmes se sentent à la fois plus exposées et sont plus exposées à l'insécurité, à la possibilité d'agression. C'est une réalité triste, mais c'est une réalité. Et donc, évidemment, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, si toute la France n'a pas peur, on a incontestablement une montée de l'insécurité, surtout de la violence dans l'insécurité. Et je pense que c'est ça qui fait peur. Et que quand vous avez une montée de la violence et de l'insécurité, bah forcément vous avez un sentiment d'insécurité qui augmente. Ça, c'est assez logique, c'est même tout à fait rationnel. Ce ne sont pas les médias qui ont inventé Crépol, ce ne sont pas les médias qui inventent des actes terroristes où vous avez Arras dans une ville qui est peu connue pour être une ville à gros problèmes. Un prof qui se fait tout d'un coup poignarder par un terroriste. Donc ce sentiment d'une menace diffuse alimente beaucoup, et c'est légitime, le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité est une réalité. Lorsqu'il est utilisé pour dénier l'insécurité, c'est une mauvaise expression, mais c'est une conséquence logique et rationnelle d'une insécurité qui augmente.
Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle, notamment le soir. C'est un phénomène nouveau. Tout de même, certaines femmes se sentaient en sécurité il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vais vous céder la parole. Pourquoi sont-elles des cibles privilégiées désormais ? Qui seraient les agresseurs privilégiés également de ces femmes avec une ultra-violence très consistante. Écoutez notamment le témoignage de Talia que nous avons reçu cet après-midi sur l'antenne de CNews. Elle a été agressée très violemment à Arles. On l'a entendu d'ailleurs dans le sujet tout à l'heure. C'était au mois de juillet. Son agresseur voulait lui voler son sac. Il y est parvenu bien sûr. Elle est restée immobile sur le sol, quasi inanimée pendant une heure. Personne n'est venu à son secours. Les fenêtres se sont refermées. Elle voyait des rideaux qui se refermaient et les gens ne sont pas venus l'aider avant qu'une voiture ne s'arrête, fort heureusement. Aujourd'hui, elle est handicapée physiquement. Elle est touchée psychologiquement et surtout, elle a peur de sortir de chez elle. Écoutez.
Je voulais signaler qu'il a été pris en caméra, vidéosurveillance. Ils ont tiré un portrait de lui, mais ils ne le retrouvent pas. Voilà. Donc, ça me fait encore plus peur parce que du coup, il est dans la nature. Et c'est où j'habite. Il a mon adresse. Et j'ai peur de sortir, surtout à 17h le soir. Puisque je n'assiste à aucune illumination de Noël, je fais rien. Voilà. Je suis bloquée à la maison. Je regarde les platanes, les feuilles tombées, je fais rien. Voilà. Voilà ma vie.
C'est la double, voire la triple peine, Alexandre Devecchio, pour cette femme qui a sa vie brisée, qui n'ose plus sortir. Son agresseur est encore en liberté. Et ce n'est pas le seul exemple, malheureusement, de femmes qui sont agressées, qui sont des cibles désormais.
C'est des milliers de personnes, d'agressions gratuites, pour vol. C'est bien d'ailleurs d'avoir un témoignage de victime, parce que quand c'est des statistiques, même quand je parlais tout à l'heure d'agressions gratuites toutes les 30 secondes, on ne mesure pas derrière qu'il y a des vies bouleversées, en particulier les plus humbles qui habitent dans les mauvais quartiers, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a tendance à s'étendre aujourd'hui dans toute la France. Pour répondre à la question que vous avez posée, posais tout à l'heure, les femmes sont depuis toujours peut-être plus vulnérables, donc peut-être plus agressées que les hommes, parce qu'elles n'ont pas la force physique toujours de se défendre. Mais il y a quand même un phénomène nouveau qui, là, voilà. Il ne faut pas tourner autour du pot, qui est lié encore une fois à l'immigration, peut-être pas dans ce cas-là, parce que là, c'est une question de vol. Mais souvent, je pense que ce qui accroît l'insécurité chez les femmes, c'est aussi que l'immigration qu'on a accueillie a peut-être des mœurs différentes d'avec les femmes. Malgré tout, on est dans une civilisation de la galanterie où normalement on ne brutalise pas les femmes. Il y a aujourd'hui d'autres mœurs de gens qui viennent d'autres civilisations et qui ont un rapport, je dirais, différent aux femmes. Par exemple, un événement majeur comme les viols de Cologne, c'était pas en France, mais c'était chez nos voisins allemands au moment où on a fait venir les migrants. On voit bien ce choc des civilisations avec des migrants qui venaient d'arriver, qui n'avaient sans doute pas l'habitude de voir des femmes découvertes et qui ont commis des viols massifs. Et là, on a mis un mouchoir pudique là-dessus. On n'a pas entendu beaucoup les féministes. Je regrette d'ailleurs que les féministes ne s'attaquent pas à cette question-là. On a l'impression que, justement, notre modèle de société est un modèle particulièrement patriarcal. Si nous sommes patriarcal, quel est les pays patriarcaux? Il y en a d'autres. Et on accueille des gens venant de pays vraiment patriarcaux. Notamment, il y a le poids de l'islamisme. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être mis sur la table aussi et qui, je pense, participe grandement au fait qu'il y ait de plus en plus de femmes d'agressées.
Philippe Guibert, je vous pose la question. Ce que dit Alexandre Devecchio, on l'entend de plus en plus aujourd'hui sur le type d'agression, sur cette mutation de la violence. Pour autant, faut-il généraliser cette violence-là et les auteurs d'ailleurs de ces violences?
D'abord, premier point, les femmes sont plus vulnérables physiquement, elles sont plus sujettes à des agressions sexuelles. C'est rarement des femmes qui agressent sexuellement des hommes. Ça peut arriver, mais enfin, c'est pas la généralité, loin de là. Et donc, d'abord, les femmes sont plus vulnérables physiquement et plus sujettes aux agressions sexuelles. Deuxième point, je ne dénie absolument pas le fait qu'il y ait une partie de l'immigration qui puisse contribuer à la délinquance et à la criminalité, et qui effectivement peut, pour une partie d'entre elles, c'est là où il ne faut pas généraliser, peut avoir des conceptions des rapports hommes-femmes qui ne sont pas exactement celles de notre tradition, et plus généralement de la tradition européenne. Ça, c'est incontestable. Mais il ne faudrait pas réduire les agressions faites aux femmes, et notamment les agressions sexuelles, à juste un problème d'immigration. C'est un problème structurel, ancien, vieux comme le monde, je crois que tu l'as dit, et donc contre lequel il faut lutter. On assiste ces dernières années, dans le milieu de la famille, à la multiplication des violences faites aux femmes. La période du Covid, du confinement, a été hélas un moment où cette réalité a été encore plus évidente. Et donc, ne soyons pas du tout naïfs, et je rejoins Alexandre sur ce point, sur le fait qu'il y a une partie de la population qui peut avoir une conception des rapports hommes-femmes qui ne sont pas dans la tradition de nos mœurs, mais ce problème d'agression sexuelle sur les femmes est plus général, hélas.
Et l'ultra-violence et qui accompagne parfois ces agressions sexuelles, oui, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est nouveau. Il y a eu des cas, on ne va pas y revenir, des cas horribles de viols de femmes.
J'en ai rappelé quelques-uns. On se souvient à l'époque où Marlène Schiappa était justement au ministère enfin c'était pas vraiment un ministère, mais elle avait un secrétariat d'État pour le droit des femmes. On se souvient qu'elle avait été dans un quartier parisien où les femmes n'osaient plus sortir parce qu'il y avait des migrants. Elle avait expliqué, certaines féministes avaient expliqué à ce moment-là qu'il fallait élargir les trottoirs et mettre de la lumière. Donc je maintiens ce que j'ai dit. Après, je suis d'accord avec Philippe Guibert que c'est un problème plus général, mais là encore, je pense qu'il faut lutter contre ce problème plus général de manière très concrète. Si vous voulez, on a aujourd'hui des féministes qui s'intéressent, qui pensent lutter pour les droits des femmes en militant pour l'écriture inclusive ou en refusant que telle station de métro s'appelle Serge Gainsbourg. Par exemple, je pense qu'elles sont, pardonnez-moi, totalement à côté de la plaque. Par contre, il y a des choses, je disais, très concrètes. L'Espagne l'a très bien fait, et là, l'État a une responsabilité. Les femmes qui sont sont victimes de violences, elles doivent être mises à l'abri. Il doit y avoir beaucoup plus de centres d'accueil. On doit éloigner les personnes violentes de manière bien plus ferme qu'on le fait aujourd'hui. Je pense que là, il y a un déficit d'efficacité. Donc, il faut peut-être arrêter avec des symboles idiots que j'ai cités tout à l'heure, en pensant que le patriarcat est dans le vocabulaire et dans les chansons transgressives. Et voilà, lutter concrètement contre des maris violents, ça existe et ça existera toujours. Et là, il faut être extrêmement ferme et pragmatique.
Mais vous faites allusion tous les deux à l'immigration. On y vient à l'immigration puisqu'il y a le débat autour de la loi immigration. Mais je sais que vous voulez ajouter quelque chose, donc je vous laisse compléter.
Là où je rejoins tout à fait Alexandre, c'est sur la réaction d'une partie des féministes, pas toutes les féministes.
Oui, on est d'accord.
On a vu, hélas, avec le crime contre l'humanité du 7 octobre en Israël, qui a été marqué en particulier par des viols et d'autres sévices infligés aux femmes, et qu'on n'a pas entendu grand monde dans cette mouvance à ce moment-là.
Il y a une forme d'omerta, effectivement, aussi, ou de silence très
une
pesant.
Une partie du féminisme, ce qu'on appelle le néo-féminisme, a tendance à penser que les dominés ne peuvent pas faire de mal, ce qui est une vision particulièrement naïve.
Bon, on évoquait l'immigration, en tout cas, dans le cadre de ces violences et de ces chiffres très alarmants, en effet, communiqués par le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, ce n'est pas un sondage ou une enquête dans la rue.
C'est un sondage.
Oui, effectivement, mais ce sont les outils statistiques du ministère de l'Intérieur qui les a recensés. Donc on peut au moins faire confiance à ces chiffres-là. Par rapport à l'immigration, Gérald Darmanin était à Calais aujourd'hui. Il s'est entretenu notamment avec la maire de la commune, Natacha Bouchard. Il a récompensé, honoré et félicité des policiers qui ont travaillé dans le cadre de la lutte contre l'immigration. Pour évoquer la loi immigration, donc, il est un peu le VRP de sa propre loi depuis de nombreux jours maintenant, depuis lundi, puisque le projet de loi a été rejeté, vous le savez, par l'Assemblée nationale lundi. Mais il continue à le dire depuis qu'il a encore une fois de nouveau obtenu la confiance d'Emmanuel Macron. Il faut que cette loi passe avec un texte. Écoutez.
Ce qu'il faut, c'est que nous ayons un texte. Nous ayons des mesures qui luttent contre l'immigration irrégulière, qui luttent contre les passeurs, qui luttent contre les délinquants étrangers. Parce que si nous ne les avons pas, je pense que les Français se diraient légitimement que les responsables politiques à Paris ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent dans la vraie vie avec les vrais gens. Voilà. Et donc je pense qu'il est de la responsabilité de tous. Chacun doit faire un pas. Nous avons pris acte de la motion de rejet. Nous regrettons qu'on n'ait pas eu le temps de discuter de cette question très importante à l'Assemblée nationale. Chacun en convient, je me suis déjà exprimé. Mais maintenant que c'est fait, et ben voilà, le gouvernement a pris une responsabilité. Il a tendu la main aux Républicains puisqu'il a dit ben voilà, on va prendre le texte du Sénat et on va l'étudier en commission mixte paritaire. Nous aurions pu retirer ce texte. Ce n'est pas le choix qu'a fait le président de la République.
Le président de la République, on va écouter dans un instant. Alexandre Devecchio, c'est vrai que Gérald Darmanin ne cesse de dire que cette loi, elle est faite pour les Français, pour aider les Français, mais on a l'impression que les Français sont exclus de cette loi parce que, un, ils ne la comprennent pas, deux, les décisions qui sont prises, elles sont politiques, et que les élus, justement, font de la politique politicienne pour rejeter cette loi.
Oui, d'ailleurs, là, il y a une forme de jeu de dupes. Je pense que Gérald Darmanin anticipe peut-être qu'il n'y aura pas d'accord et veut rejeter la responsabilité sur les Républicains, de même que les Républicains rejetteront la responsabilité sur le centre. Moi, ce que je crois, c'est que les Français veulent une loi immigration, mais ne veulent pas nécessairement celle-ci, dont on a compris que c'était quand même une vaste fumisterie, pardonnez-moi, et même dans sa version la plus sévère du Sénat. Je vais vous expliquer pourquoi. Deux raisons. D'abord, la loi telle qu'elle était, c'était non seulement pas une loi contre l'immigration, mais une loi pour l'immigration, puisqu'elle consacrait comme un droit le fait pour les métiers en tension d'être régularisés. Ça allait être quelque chose d'automatique. Donc ça allait créer un appel d'air. Le Sénat a un peu durci ça, mais en réalité très peu. Il a remplacé l'article 3 par un article 4 bis. Et il faut bien dire aux gens que la régularisation continuera à avoir lieu, elle sera simplement encadrée par un préfet. Il faut rappeler que depuis 10 ans, plus de 300 000 clandestins en situation irrégulière ont été régularisés pour les besoins du patronat. Donc c'est pas une loi qui lutte contre l'immigration, c'est une loi qui, à mon avis, la favorise. Il y avait quelques éléments dans la loi qui, effectivement, sont censés favoriser, simplifier les procédures, c'est-à-dire tous les recours en matière de droit d'asile. Mais encore une fois, qui dit OQTF plus rapidement ne dit pas nécessairement expulsion. Il faut se mettre d'accord avec les pays d'origine. Et surtout, ça simplifie le droit français, mais ça ne simplifie pas le droit européen. Et on a eu un exemple cette semaine, de cette, un exemple caricatural parmi d'autres, de cet Ouzbek que le Gérald Darmanin avait expulsé. Pour le coup, il avait pris ses responsabilités, il avait expulsé. Mais entre-temps, la Cour européenne des droits de l'homme prend une décision différente. Et le Conseil d'État demande à l'État français d'aller récupérer ce type qui est soupçonné de terrorisme, enfin, pour lequel on considère qu'il y a un risque terroriste, en Ouzbékistan, aux frais de l'État, plus en plus de lui donner de l'argent pour préjudice. Donc on voit qu'on est dans un système ubuesque et on voit qu'en réalité, c'est plus les politiques français, c'est plus nos dirigeants qui ont la main, mais ce sont les juges. Pour le moment, la politique migratoire est faite par les juges, un peu par le patronat, je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il faut reprendre le contrôle et on pourra le faire qu'avec une révision constitutionnelle qui consacre le primat de la loi française sur tous les autres traités. C'est ça la seule politique à faire. Et d'ailleurs, les Républicains qui défendent la loi du Sénat défendent en même temps une révision constitutionnelle. Donc ils ont bien conscience que le projet de loi ne sert pas à grand-chose.
Ou peut-être une application stricte des règles actuelles. Cette loi, ce texte-là en tout cas, Philippe Guibert, est-ce que c'est une supercherie ?
Non, je ne partage pas la sévérité d'Alexandre. Non pas que ce soit une loi qui résolve tous les problèmes. Et je suis assez d'accord sur ta conclusion sur la révision de l'article 55, mais c'est même pas celle-là que réclament les Républicains, puisqu'ils veulent élargir le champ du référendum, donc je suis pas convaincu que ce soit la panacée non plus. Donc effectivement, il y a un problème de droit européen et de volonté ou de capacité ou de volonté politique de, dans certains cas, de surmonter le droit européen. Mais de là à dire que cette loi est inutile, ça me paraît quand même très excessif. Il y a toute une série de mesures qui permettra plus facilement d'expulser des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire, soit parce qu'ils sont clandestins, soit parce qu'ils ont commis des délits ou des crimes. Et puis sur la régularisation, je ne partage pas non plus l'inquiétude d'Alexandre sur cet article 3, qui en plus était déjà très encadré, qui concerne 5000 personnes par an, parce que c'est pas ça qui va alimenter les 300 000 qui ont été régularisés sur 15 ans, je crois.
10 ans.
10 ans. Et en plus, il y avait des propositions de compromis faites à la fois par Édouard Philippe, faites à la fois par les centristes au Sénat, pour trouver des mesures des dispositions qui allaient vraiment contrôler le dispositif pour éviter que ça soit une brèche qui ouvre à des régularisations plus importantes. Bon, donc je ne crois pas que cette loi mérite autant d'honneur ni autant d'indignité. Je pense qu'elle peut avoir des dispositifs extrêmement utiles pour l'action du ministère de l'Intérieur, très concrètement sur des expulsions, sur la diminution des recours pour un certain nombre de gens qui n'ont pas obtenu le droit d'asile et qui, dans le système actuel, sont pratiquement protégés pour rester sur notre sol alors qu'ils n'ont pas obtenu le droit d'asile. Donc je pense que cette loi est utile. Après, le fond du sujet est de savoir si, d'une part, les Républicains et, d'autre part, l'aile gauche de la majorité, emmené par Sacha Houlier, président de la commission des lois, qui va être président de cette commission mixte paritaire, jusqu'à quel point ils ont envie d'un compromis. Peut-être le petit défaut de communication et d'action de Gérald Darmanin, c'est qu'on a eu l'impression qu'il était d'accord avec le Sénat quand le Sénat votait le texte, après qu'il était d'accord avec la commission des lois quand la commission des lois est revenue sur le texte du Sénat, et qu'on a l'impression qu'il veut un texte pour avoir un texte. Et je trouve qu'il aurait gagné à nous donner plus sa vision et ses préférences. Mais j'ai l'impression que là, la balle n'est plus tout à fait dans son camp. Elle est principalement dans celui des Républicains et en partie dans celui de l'aile gauche de la majorité.
Et qui ne vote peut-être pas par rapport au fond, mais par rapport à la forme. C'est-à-dire que le texte...
Et qui vote par rapport à des enjeux politiques.
Des enjeux politiciens.
Qui dépassent largement ce texte.
Ouais.
Quand on interroge les Français, parce que vous disiez, ils ne comprennent pas la loi, mais quand on leur explique les mesures et qu'on les soumet par sondage, la plupart des mesures de cette loi sont quand même approuvées à 75 ou 80%. Donc, je pense que cette loi est utile sans tout résoudre, on est bien d'accord. Et je pense que les Français attendent en majorité un compromis, à part peut-être les électorats les plus radicaux.
Peut-être ça le problème, c'est le compromis.
Et je pense que les Républicains feraient bien de regarder
le compromis en
si, si vous voulez, en un mot, en 15, mais on a commencé sur l'insécurité. On voit bien qu'on a un problème majeur en France avec l'immigration. D'abord, un problème d'insécurité, mais l'immigration massive aggrave tous les problèmes que nous avons, que ce soit sur notre système de santé, à l'école, en matière de dépenses sociales. Donc, je pense que c'est devenu une question existentielle. Et donc là, on arrive avec notre 30e loi sur l'immigration qui va servir à pas grand-chose. Donc, c'est le moment d'avoir une loi décisive qui soit à l'auteur de l'enjeu. Là, on fait de la politique, pardonnez-moi, et 300 000 illégaux en 10 ans, c'est pas rien. Et peut-être, ça fera pas... Et donc, ça va continuer à poursuivre comme ça, en sachant que les gens qui vont venir, qui vont être régularisés, ils vont faire un métier difficile, qui vont arrêter quelques années après parce que personne n'a envie d'être traité comme un esclave. Dans le meilleur des cas, ils auront un autre boulot, dans le pire des cas ils seront au chômage et on en fera venir d'autres. Donc c'est le tonneau et les naïdes, donc il faut revoir totalement la logique et cette loi-là, à mon avis, ne revoit pas cette logique.
On marque une pause, on continue à
en parler au patron d'un sérieux.
Oui, mais je l'ai dit deux fois.
Et on revient dans quelques instants avec Alexandre Devecchio, avec Philippe Guibert. Dans Ça se dispute, à tout de suite sur CNews. La deuxième partie de Ça se dispute avec Philippe Guibert et Alexandre Devecchio. Ce soir, et la polémique du jour. Alors que, vous le savez, l'otage français Elia Toledano est décédé, l'otage franco-israélien Elia Toledano est mort. Olivier Faure, très critiqué après ses propos sur Israël, le patron du PS, sur son compte X. Le patron du Parti Socialiste dénonce la politique de la colonisation dans les territoires palestiniens qui se poursuit malgré la guerre menée contre le Hamas. Voilà ce qu'il dit. Personne ne doit se taire. Il ne s'agit pas d'une riposte. Le 7 octobre est devenu un prétexte non seulement pour rendre Gaza invivable, mais pour coloniser la Cisjordanie. L'extrême droite israélienne devra rendre des comptes devant le monde entier. Avant de juger la forme, Philippe Guibert, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, sur le fond, est-ce que c'est une hérésie ce qu'il est en train de dire ?
Ah, c'est une hérésie, c'est exactement ce qu'il dit, que le 7 octobre est devenu un prétexte. Ce n'est pas une hérésie quand il dit qu'il faut condamner les exactions des colons en Cisjordanie. D'ailleurs, cet après-midi, un grand nombre de pays, dont la France, ont fait une déclaration pour condamner ces exactions. Et ça choque beaucoup de monde qu'il y ait des exactions de colons en Cisjordanie. C'était le cas avant le 7 octobre, mais c'est vrai qu'il y a eu tendance à en avoir plus depuis le 7 octobre. Donc ça, ce n'est pas cette partie-là du tweet d'Olivier Faure qui me paraît poser... Ah oui, parce que il a l'air de suggérer qu'en fait les Israéliens profitent du 7 octobre pour mener un travail une politique d'annexion. D'une part, cette politique d'annexion, notamment Cisjordanie, a commencé il y a 20 ans, et d'autre part, on peut pas dire que le 7 octobre soit devenu un prétexte. C'est évident. Il dit que ce n'est pas une riposte que mène l'armée israélienne. Évidemment que c'est une riposte dont on peut critiquer les modalités. Ensuite, il peut y avoir discussion sur les modalités. Moi, ce qui m'étonne chez Olivier Faure, c'est... Je le connais depuis 35 ans, de façon assez proche, même beaucoup moins ces dernières années. C'est qu'il était, on s'est connu chez les jeunes rocardiens, il a toujours été un socialiste modéré, proche de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Et qu'aujourd'hui, depuis 2022, en réalité, c'est comme s'il était passé sous l'ombre tutélaire de Jean-Luc Mélenchon et qu'il n'arrive pas à avoir une autonomie de pensée et qu'il est toujours poussé plus à, je ne sais pas si c'est plus à gauche ou dans une ligne, beaucoup plus à gauche, j'allais dire gauchiste. Et je trouve que là, il commet une faute politique parce que pour critiquer certains aspects de la politique israélienne, il n'y a pas besoin du tout, mais vraiment pas du tout, d'aller raconter que le 7 octobre, qui a été un crime contre l'humanité, était en quoi que ce soit un prétexte. Alors, et donc, qui est des critiques sur la politique israélienne, tout le monde en fait. Enfin, une partie des pays même en font. Mais que le Parti socialiste n'arrive pas à tenir... La ligne qui a toujours été la sienne et qui a toujours consisté à dire Israël a droit à sa sécurité. Et donc quand Israël a 1200 morts dans un crime contre l'humanité, ils ont le droit de riposter. Même si après on peut s'interroger sur la stratégie de cette riposte et sur les modalités de cette riposte. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser ce type de vocabulaire qui frôle le complotisme en plus. Donc je trouve ça détestable et je trouve ça dommage pour un dirigeant politique du Parti Socialiste.
D'autant qu'avant ce tweet, avant ce message, Olivier Faure avait des positions plutôt modérées.
Mais il a condamné très vite le 7 octobre.
Il a condamné très vite ce que n'avait pas fait Jean-Luc Mélenchon, évidemment, avec notamment la polémique
autour de la terminologie otage. Et lui n'a jamais hésité à dire que c'était le Hamas était une organisation terroriste.
Absolument. Notamment sur le compte X, il y a l'ancien député socialiste de l'Essonne, Julien Drey, qui dit « Honte à Olivier Faure, que je ne le croise pas », dit-il. Oui, mais c'est très cinglant, en effet. Est-ce que vous avez le sentiment, Alexandre de Vecchio, qu'il a voulu se mélanchoniser en essayant de faire un coup politique
ce tweet-là? J'essaie de me mettre dans la tête d'Olivier Faure. Si vous voulez, j'ai du mal à croire qu'il le pense vraiment. Donc je pense que c'est une stratégie politique. C'est une stratégie qui est dictée surtout par sa faiblesse. En réalité, Olivier Faure, c'est un petit apparatchik qui est à la tête du PS sans aucune autorité. On voit que c'est un PS qui est réduit à sa portion congrue et qui en plus est divisé. Et donc il lui reste sans doute comme seule solution que d'être le plus proche possible de Mélenchon. Ouais, il assume cette stratégie-là, peut-être avec des arrière-pensées, mais encore je suis même pas sûr. Il serait bien ambitieux si c'était ses arrière-pensées, mais de se dire bah si jamais Jean-Luc Mélenchon est empêché, moi peut-être je peux y aller en tant que candidat du PS, et comme je me serais gauchisé, je vais récupérer une partie de l'électorat de la NUPES. C'est peut-être ça qui se dit, mais je suis même pas sûr, et c'est bien ambitieux. Moi, je crois que sa seule ambition, peut-être justement, c'est de conserver son poste de député. Donc, si ça passe par une forme de servilité envers Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est bien dommage, parce qu'on est dans une période qui est quand même une période grave, en réalité, pour le pays, avec une partie du pays qui est communautarisé, qui, on sait, est antisémite. Et donc là, ça l'alimente, ça la nourrit, ça légitime l'antisémitisme d'une partie du pays, ça met en danger les Juifs en France. Donc, si vous voulez, la petite politique politicienne, j'ai jamais trouvé ça très estimable, mais encore moins dans un contexte où le pays est aussi fracturé, où ça met en danger la vie des gens, en réalité.
Ce message, en tout cas,
sur ce point,
ça souffle sur les braises et ça provoque peut-être, ou ça alimente l'antisémitisme. C'est vrai que le président du CRIF, Jonathan Arfi, a parlé de tsunami antisémite actuellement.
Mais on a la grande désolation de voir que l'antisémitisme qui était latent, parce qu'il a... On ne l'a pas découvert depuis le 7 octobre. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu une poussée d'antisémitisme. Mais là, il a vraiment explosé. Et il s'est traduit par des agressions multiples et par un nombre d'actes antisémites qui est devenu... qu'il était déjà avant inacceptable, mais qu'il est devenu tout à fait écœurant. Et c'est une honte pour notre pays. Et pour en revenir à Olivier Faure, il a fallu que ses petits camarades le poussent à prendre quelques distances après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon refusant de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Il a fallu que ses petits camarades le poussent pour qu'il finisse par prendre quelques distances. Et là, c'est comme s'il voulait revenir au bercail très très vite, parce que comme s'il n'avait pas d'autre horizon politique que d'être derrière Jean-Luc Mélenchon. Et ça m'attriste profondément. Pour le PS et pour Olivier Faure. Et donc, je partage votre avis. Ce genre de déclaration qui a l'air de dire que... En plus, on peut critiquer, on doit, à mon avis, même critiquer l'extrême droite israélienne, qui est effectivement extrémiste. Mais on ne peut pas résumer Israël et la politique israélienne à l'extrême droite israélienne. C'est pas vrai. Le cabinet qui est constitué, le cabinet de guerre qui a été constitué, a été ouvert une partie de l'opposition. Et ce qui reste d'opposition n'est pas du tout contre cette riposte israélienne. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit quand même sur Israël. Je veux dire, autant, encore une fois, on peut critiquer des aspects de la politique israélienne, dire que sa stratégie militaire ne débouche pas sur une stratégie politique, qu'elle fait beaucoup de victimes. C'est un point qu'on peut dire. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit sur une démocratie comme Israël. Et réduire Israël et même son gouvernement à l'extrême droite me paraît très discutable.
Attention à ne pas souffler sur les braises, comme le fait Jean-Luc Mélenchon assez régulièrement. Oui. Ça a encore été le cas cette semaine. Olivier Faure cherche peut-être, on ne va pas le réduire à cela, mais à propager la voix de son maître, en quelque sorte. Rejoint-il Jean-Luc Mélenchon?
Qu'il a combattu pendant 30 ans au PS.
C'est ça le paradoxe. Jean-Luc Mélenchon, qui a exprimé hier le souhait de voir la mise en place de sanctions économiques contre le gouvernement israélien, à l'instar de celles qui frappent la Russie depuis son invasion de l'Ukraine. Écoutez-le.
Il paraît que les sanctions économiques ramènent à la raison les violents. C'est bien ce qui a été fait contre la Russie. Alors il faut demander des sanctions économiques contre le gouvernement de l'État d'Israël, de manière à ce qu'il revienne sur son attitude criminelle. Les sanctions contre les Russes, la Russie, ne sont pas des sanctions contre le peuple russe. En tout cas, on l'espère. De même, les sanctions ne seraient pas des sanctions contre les Israéliens, mais contre le gouvernement qui les conduit à ce massacre.
Le credo de Jean-Luc Mélenchon, et peut-être désormais aussi celui d'Olivier Faure, c'est de continuer à taper non pas sur Israël, mais sur le gouvernement israélien, et donc sur l'État hébreu.
Ce qu'on se disait pendant qu'on voyait les images, c'est qu'en plus Mélenchon est gonflé parce qu'il n'a jamais soutenu les sanctions contre Vladimir Poutine. Donc là, il en veut contre Israël, qui, rappelons-le, Israël a été l'agressé dans cette affaire. C'est une riposte. Ils sont en situation de légitime défense, mais c'est pas l'agresseur.
On ne peut pas comparer la Russie et Israël.
On ne peut pas comparer les choses. Après, on peut discuter de l'utilité des sanctions économiques. Moi, je ne suis pas particulièrement pour, mais là, la position de Jean-Luc Mélenchon est totalement incohérente, puisqu'il n'a pas soutenu les sanctions contre Vladimir Poutine, et il a d'ailleurs appelé à la modération, une modération qu'il n'a pas du tout pour Israël. Ensuite, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, certes, a un caractère, peut-être se laisse emporter dans ses obsessions quand il est mis en faute. J'ai souvent dit qu'il me rappelait Jean-Marie Le Pen après le détail de l'histoire. Mais je pense que là, il en a fait vraiment une stratégie. On ne peut plus dire qu'il se laisse emporter par ses excès, il s'enferme dans son erreur pour des raisons psychologiques. Je pense qu'il a décidé de souder son noyau dur radicalisé, d'aller chercher effectivement les voix qui lui manquaient dans les banlieues, où il fait déjà beaucoup de voix. Alors ça peut être un pari qui peut paraître dangereux, puisque certes, il peut aller peut-être chercher d'autres voix chez les abstentionnistes des banlieues, mais en perdre beaucoup ailleurs, notamment du côté de la gauche modérée. Mais je crois que ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'y a personne dans le paysage qui peut rivaliser avec lui, que de toute manière, il sera le seul candidat crédible de la gauche, et que même la gauche modérée, comme la dernière fois, finira par se rallier à lui, et donc qui vise le premier tour, d'être qualifié au second tour. Je ne crois pas qu'il croit à sa victoire à la présidentielle, parce qu'il ne peut pas gagner comme ça. Mais par contre, il aimerait finir sa carrière en étant au second tour. Pourquoi pas face à Marine Le Pen? Pourquoi pas en créant du chaos dans le pays, en misant sur un troisième tour dans la rue? Et il se dit que c'est tout à fait possible, avec un noyau dur communautarisé, plus des gens de gauche qui auront oublié d'ici 3 ans ces déclarations fracassantes et qui, faute de mieux, voteront pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un pari qui est risqué, mais pas du tout absurde.
Néanmoins, ces déclarations, Philippe Guibert, elles sont condamnables. Comparer Israël et la Russie, l'Ukraine et le Hamas, à ce compte-là, vous voyez, et c'est extrêmement dangereux de prononcer des mots comme ça quand on est un responsable politique.
Oui, bien sûr. Et puis, comme l'a dit Alexandre, le fait qu'il ait été toujours contre les sanctions économiques, en particulier contre la Russie, puisqu'on a oublié qu'avant, le 22 février 2022, Jean-Luc Mélenchon trouvait beaucoup de qualités à Vladimir Poutine, comme Marine Le Pen. C'était un de leurs points communs. Et donc, on a un petit peu oublié qu'il avait un discours extrêmement compréhensif pour Vladimir Poutine, et que depuis le 23 février, il cherchait à faire oublier ses déclarations. Par ailleurs, sur les sanctions économiques, non seulement elles me paraissent malvenues et très malvenues, en l'occurrence vis-à-vis d'Israël, mais la stratégie des sanctions économiques pratiquées par l'Occident est quand même un échec à peu près constant.
Oui.
Le plus visible, le plus le plus évident est justement la Russie, puisque la Russie a largement réussi à contourner les sanctions économiques. Bruno Le Maire, dans une déclaration à l'emporte-pièce, avait dit « on va mettre à genoux l'économie de la Russie ». On n'a rien mis à genoux du tout, et la Russie écoule son pétrole ou son gaz avec d'autres pays. Et j'en reviens à Mélenchon et sur sa stratégie pour rejoindre la fin du propos d'Alexandre. Les électeurs de gauche, Alexandre, ne sont quand même pas complètement amnésiques. Ils ne sont pas tous frappés d'Alzheimer. Je crois justement, et ça se confirme à chaque fois que tu regardes une enquête, hein, son âge, quand même que là, il y a une rupture entre Mélenchon et l'électorat de gauche qui a été voté pour lui, non pas par conviction en 2022, mais par vote utile, en se disant on va peut-être éviter un second tour entre Macron et Le Pen. Et donc on va réussir à placer. Donc le pari de Jean-Luc Mélenchon est quand même très 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 risqué.
Oui, mais il faut avoir de...
Si tu permets juste une phrase. Qu'il soit le seul leader à gauche, ça tu as sans doute raison. Parce qu'on ne voit pas de personnalité à émerger. Je pense que la seule, c'est Laurent Berger qui pourrait venir, parce qu'il est extérieur au champ politique et qu'il pourrait apporter à la gauche quelque chose.
Pas Fabien Roussel.
Mais Fabien Roussel, il a la marque du Parti communiste sur le front. Et j'ai beaucoup de respect pour Fabien Roussel. Mais tant qu'il restera le candidat du Parti communiste, il ne pourra pas aller très très loin. C'est le leader de gauche le plus populaire, y compris au sein de la gauche. Tout le monde dit que c'est le leader de gauche préféré des électeurs de droite. Mais c'est aussi le préféré des électeurs de gauche, si on les rassemble tous.
Ça commence à faire du monde,
mais tant qu'il a tant que son parti est le Parti communiste, il ne pourra pas devenir le leader de la gauche.
Moi, je pense qu'il faut avoir de la mémoire en politique. Justement, je ne suis pas amnésique et je me souviens très bien d'un Jean-Luc Mélenchon qui... lors des précédentes européennes, était tombé à 6%, avait eu cette petite phrase, vous vous souvenez, « La République, c'est moi », qui avait quasiment violenté la police, qui a participé à la marche contre l'islamophobie aux côtés d'islamistes, où on a crié à la Wagba, et tout ça l'a pas empêché à la fin, justement, par vote utile, de figurer quasiment au second tour. Je crois qu'il refait le même pari en misant... je sais pas si c'est sur l'amnésie, mais sur le fait que certaines personnes veulent absolument voter pour l'étiquette de gauche, quel que soit le candidat qu'on leur présente. Ça a marché la dernière fois. Il n'est pas certain que ça ne refonctionne pas cette fois-ci, parce que une partie justement des électeurs de gauche n'avaient pas envie de voter une deuxième fois pour Emmanuel Macron, mais ils n'auront peut-être pas envie non plus de voter pour Édouard Philippe ou le candidat du Bloc central qui se présentera. Donc c'est le pari que fait Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, il arrive aux électeurs de gauche d'être amnésiques et de s'asseoir sur leurs principes.
Un petit mot, Philippe Guibert, j'aimerais qu'on garde quelques minutes pour parler des atteintes à la laïcité.
Il y a un élément
également
qui ne prend pas en compte, c'est que si Mélenchon est au deuxième tour face à Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen qui est élue, j'allais dire, les doigts dans le nez de façon un peu familière. Et que je pense que ça pourrait faire réfléchir pas mal d'électeurs de gauche, au cas où ils auraient oublié, ce qui va pas être facile quand même, tout ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon.
C'était vrai déjà, c'était déjà vrai il y a deux ans que Marine Le Pen était élue.
Non, pas de la même façon. Je pense que si on fait un sondage, si un deuxième tour Mélenchon-Le Pen dans les 15 jours, Marine Le Pen, elle gagne à 60%.
Oui, mais ça aurait été le cas, je pense. Mais
je suis pas sûr.
Juste quelques minutes pour terminer cette émission. Il n'y a jamais eu autant d'atteintes à la laïcité à l'école que le dernier trimestre de l'année. C'est ce que révèle les chiffres de l'éducation nationale, qui soulignent que plus de 3000 signalements ont été remontés depuis le mois de septembre, même si au mois de novembre, avec les mesures de Gabriel Attal, cela tend à baisser un tout petit peu. Le ministre de l'Éducation était en déplacement dans un établissement scolaire d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Écoutez-le, il estime que désormais, il n'y a plus d'omerta pour dénoncer les atteintes à la laïcité.
L'an dernier, il y a eu plusieurs milliers d'atteintes à la laïcité à cause de tenues religieuses. Au mois de septembre, autour d'un millier. Et là, au mois de novembre, 66. Donc on voit que la décision que j'ai prise sur le port de l'abaya et du camis porte ses fruits, qu'elle est appliquée. C'est la fin du port de l'abaya et des tenues religieuses à l'école. On voit que ça entraîne une baisse des chiffres d'atteinte à la laïcité. Moi, ce que je veux en retenir, c'est que la décision politique, les choix clairs qui sont appliqués, ça fonctionne. Ce que je veux en retenir aussi, c'est qu'il n'y a plus d'omerta. Quand il y a des signalements, ça remonte. Si on veut pouvoir prononcer des sanctions, il faut qu'il y ait des signalements. Et on voit aujourd'hui que chaque atteinte à la laïcité est désormais signalée. Charge à nous ensuite de faire appliquer les règles et de prendre les sanctions nécessaires.
Il semble donc que cela marche avec les mesures de Gabriel Attal. Preuve en est, même si ça fait un débat, et on peut en parler, hein, on peut ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé au collège d'Issou notamment, où les professeurs prennent la parole désormais parce qu'ils craignent pour leur sécurité.
Ils sont mis en retrait. Mais ce qui monte dans les atteintes à la laïcité, c'est la contestation des enseignements. Si j'ai bien regardé les chiffres de l'excellent dossier du Figaro ce matin. Et donc c'est inquiétant, parce que Attal a raison sur le fait que sur la baïa, ça a réglé le problème, mais il y a d'autres manifestations qui, elles, augmentent, et en particulier la contestation des enseignements dans le domaine scientifique, dans le domaine du français, dans le domaine de l'histoire, et que dans le contexte qu'on a connu justement depuis le 7 octobre, il y a eu aussi une poussée de contestation à l'école. Donc cette situation est quand même inquiétante. Gabriel Attal a raison de tenir bon et de vouloir prolonger le bras de fer, il ne faut surtout pas lâcher.
Est-ce que c'est pour cette raison, parce qu'il y a les mesures de Gabriel Attal, que le maire de la ville de Viltrolles, dans les Bouches-du-Rhône, a imposé la viande à la cantine scolaire au nom de la laïcité? Et cela fait polémique, Alexandre Vecchio, puisque les enfants musulmans, notamment, disent la viande, il peut y avoir du porc, ce n'est pas une viande halal.
Oui, notamment. Mais ça aurait dû être... Il impose quelque chose qui devrait être banal, en fait. On ne devrait pas tellement s'en préoccuper. Il y a des accommodements raisonnables que j'ai toujours connus, c'est-à-dire que le jour où il y a du porc, les enfants musulmans peuvent prendre autre chose. On ne va pas les forcer à prendre du porc. Bah, on ne va pas non plus à faire du halal, parce qu'il y a des musulmans. Donc ce qu'il fait est tout à fait banal. Il fait un peu de communication, mais ça illustre aussi la lâcheté des élus depuis des années. Gabriel Attal communique très bien. Et il a bien agi sur les abayas, il a bien agi. Maintenant, penser qu'il a tout résolu avec ça, non. Mais il a raison quand il dit qu'il faut continuer à faire remonter les faits. Il dit qu'il n'y a plus aucun professeur qui se censure, j'en suis pas si sûr. Certains ont peur, on a eu le cas d'Arras il n'y a pas longtemps, il y a encore eu un professeur menacé au couteau je ne sais plus où. Donc peut-être certains ont peur et se censurent, mais en tout cas il les encourage à parler et en cela il a raison. Et moi je pense que ça va au-delà d'ailleurs de la laïcité, il y a une attaque à notre culture dans le cas de, je ne sais plus dans quel coin, mais la fameuse histoire du tableau de nu qui est contesté, qui est jugé qui est jugé islamophobe, ça dépasse la laïcité. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont hostiles à notre culture, à ce qu'est la France. Donc moi, je défends la laïcité, mais je défends aussi la France et la culture française. Et je pense qu'il faut poser les choses, les enjeux clairement.
Voilà, ce qui a été dit, c'est que pour des enfants musulmans notamment, c'est une forme de nudité qui est montrée à travers ce tableau. Dans un sur l'art, Philippe Guibert, et il nous reste quelques secondes pour conclure. Voilà, et c'est la laïcité aussi en question. Sur ce sujet.
Oui, mais c'est la culture française, c'est la culture européenne, c'est
les lumières,
quoi.
La Renaissance, là.
C'est ça qui est en cause. Après, sur les questions de cantine, je trouve très important ce que tu as dit. Il n'y a pas à imposer non plus aux enfants de manger du porc et
personne l'a jamais fait. Personne l'a jamais fait. Donc surtout ne racontons pas des mensonges à la population. Personne n'a jamais imposé le porc aux musulmans.
S'il n'y a pas d'alternative.
Comme dirait un ancien président de la République, même si c'était pas peu subtil, double portion de frites, si vous voulez, ils en mourront pas non plus. Mais en réalité, il y a toujours eu des alternatives en plus.
Pas toujours.
Et je commence à me demander si on n'a pas fait justement preuve de trop d'accommodement raisonnable, parce que moi, de mon époque, il y avait des alternatives, ça posait pas de problème et on a réclamé autre chose. On a considéré que c'était une discrimination. Ensuite, on a voulu le halal. Donc, je pense que ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont une autre culture, doivent s'adapter.
Il n'y a pas à avoir de halal, mais il faut des alternatives.
On continuera le débat, encore une fois, vendredi prochain, avec grand plaisir dans cette dispute. Merci de nous avoir accompagnés, Philippe Guibert.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Alexandre Devecchio. Dans un instant, Olivier de Kerenfleck pour Soir Info sur CNews.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.